Chapitre 30 Sur les bords du Rhin. Nous sommes maintenant à quelques semaines des événements retracés dans le précédent chapitre. Par une belle matinée d'été, après la clôture du Parlement, alors que toute la haute société de Londres s'enfuit de la ville, les uns pour leur plaisir, les autres pour leur santé, le paquebot pour la Hollande vient de quitter sa station aux marches de la tour, emportant avec lui une société choisie de fugitifs anglais. Le pont, la dunette et le gaillard d'arrière sont couverts d'une troupe d'enfants aux joues fleuries, de nourrices bruyantes, de dames en chapeau rose et en toilette d'été, de messieurs en casquette de voyage et en veste de toile, dont les moustaches qui commencent à poindre vont leur donner un air plus respectable à l'étranger. Joignez à cela des voyageurs émérites aux cravates empesées, aux chapeaux bien brossés, tels qu'on en voit par toute l'Europe depuis la conclusion de la paix, et qui vont faire retentir le godam national dans toutes les capitales du monde civilisé. Le régiment des étuis à chapeau, des malles et des coffres à linge présente un front de bataille des plus formidables. On voit dans le nombre d'élégants étudiants de Cambridge qui partent avec leur gouverneur pour aller visiter les universités allemandes. Il s'y trouve aussi de jeunes Irlandais encadrés dans de magnifiques favoris et tout resplendissant de bijoux. Ils ne cessent de parler et se montrent d'une exquise politesse à l'égard des passagères que les étudiants de Cambridge ont au contraire le soin d'éviter avec une gaucherie toute virginale. On rencontre aussi sur le pont de vieux habitués de Pall Mall qui se rendent à Ems ou à Wiesbaden pour y purifier leur sang épaissi par les dîners de l'hiver et pour raviver leur tempérament affaibli aux émotions de la roulette et du 30 et 40. Voyez encore là-bas ce vieux Mathusalem, accompagné de sa jeune femme dont un officier aux gardes porte l'ombrelle. Reconnaissons, en traversant cette foule, la noble famille des Bareacres. Installés près de la roue du bateau, ces impertinents personnages lorgnent tout le monde et ne parlent à personne. Voilà bien leur voiture avec ses armoiries et sa couronne. Elle est chargée de malles sur l'impériale et placée à l'avant du navire au milieu d'une douzaine d'autres semblables. Il faut un courage héroïque pour affronter cette barrière de roues et les malheureux, relégués sur l'avant du navire, ont à peine assez d'espace pour se retourner. Il se trouvait là, aux secondes places, des enfants de Juda et d'Israël, portant avec eux leurs provisions et assez riches pour acheter chacun tous les passagers du premier salon. Les laquais, après s'être un peu affermis sur le navire et avoir installé leurs maîtres respectifs dans leur cabine ou sur le pont, se réunissent en groupe et se mettent à causer tout en fumant. Les Juifs se rapprochent d'eux, non sans donner un coup d'œil aux voitures. Il est facile de reconnaître la voiture de Milord Mathusalem, l'équipage, le briska et le fourgon de Milord Ranauer, que le propriétaire aurait avec empressement troqué contre de l'argent. Où Milord avait-il pu trouver des ressources suffisantes pour subvenir aux frais de ce voyage? Les enfants d'Israël pourraient bien nous l'apprendre et nous dire aussi combien Milord a d'argent en poche, à quel taux et qui le lui a procuré. Restait encore une voiture de voyage, très propre, très commode, qui devint à son tour le sujet des investigations de ces messieurs. « À qui cette voiture-là » demanda l'un des laquais, qui avait des bottes à revers et des boucles d'oreilles, à un autre qui avait des boucles d'oreilles et des bottes à revers. « C'est à Kirsch, je pense. Je l'ai bu tout à l'heure qui prenait des sandwich dans la voiture, » dit le laquais avec un accent franco-teutonique. Kirsch, qui était en ce moment dans le voisinage à donner des instructions mêlées de jurons polyglottes aux hommes de l'équipage sur la manière de ranger les bagages des passagers, arriva pour mettre au fait ses confrères de l'écurie. Il leur apprit que la voiture appartenait à un nabab de Calcutta et de la Jamaïque, excessivement riche, et au service duquel il avait entrepris ce voyage. En ce moment, un tout jeune homme, qui venait d'escalader la muraille formée par les caisses et les coffres, était grimpé de là sur la voiture de Lord Mathusalem et, à travers cette route périlleuse, avait fini par arriver, de voiture en voiture, jusqu'à la sienne, où il avait pénétré par la portière aux grands applaudissements des spectateurs. « Nous allons avoir une fort belle traversée, monsieur Georges, » dit Kirsch, en lui faisant une aimable grimace et en tortillant son chapeau galonné. « Allez au diable !» avec votre français, dit le jeune homme, et dites-moi plutôt où sont les biscuits. Là-dessus, Kirsch lui répondit en anglais, ou tout au moins dans un idiome approchant, car bien qu'il possédât une teinture de toutes les langues, Kirsch, cependant, n'en possédait aucune assez bien pour pouvoir la parler avec facilité et correction. Ce jeune homme à la voix impérative et dont l'estomac criait si fort la faim, malgré un copieux déjeuner qu'il venait de faire 3 heures auparavant à Richmond, ce jeune homme, disons-nous, n'était autre que notre ami George Osborne. Son oncle Joseph, sa mère et un autre monsieur qui ne les quittait plus étaient sur le gaillard d'arrière et tous quatre commençaient leur tournée d'été. Joss, assis sous la tente qu'on venait de lui dresser sur le pont, se trouvait juste en face du comte de Bearacres et de sa famille, dont le moindre geste occupait toute l'attention du héros de Waterloo. Le noble couple lui parut rajeuni depuis cette fameuse année de 1815, où Joss se rappelait de les avoir vus à Bruxelles, et depuis lors, il n'en parlait plus que comme de ses intimes connaissances. Les cheveux de cette vieille marquise de Carabas, autrefois d'un noir foncé, étaient maintenant d'un blond cendré qui éblouissait l'œil, et les favoris du marquis, qui jadis avaient été du plus beau rouge, étaient maintenant d'un noir magnifique, avec de merveilleuses gammes de nuances et de reflets étincelants. Malgré ces transformations, le noble couple attirait toute l'attention de Joss, qui, lorsqu'il avait un lord devant lui, ne voyait plus rien d'autre. « Voilà des gens auxquels vous avez l'air de vous intéresser vivement, » lui dit Dobbin d'un air railleur qui fit sourire Amelia. Mrs. Osborne portait un petit chapeau de paille avec des rubans noirs et une robe de deuil. Le mouvement du bateau, les plaisirs du voyage, en la distrayant du souvenir de ses peines, répandaient sur sa figure l'expression du contentement. « Le beau ciel !» dit alors Amy d'une voix émue et touchante. « J'espère que la traversée sera bonne. » Joss fit un geste magistral et, jetant un coup d'œil dans la direction des nobles personnages qu'il avait en face de lui, « Vous ne feriez guère attention au temps, répondit-il, si vous aviez fait les mêmes voyages que nous. » Mais, en dépit de son tempérament aguerri au voyage, notre ami Joss resta toute la nuit très malade dans sa voiture où son domestique lui administra force grog pour le remettre. Après une heureuse traversée, le navire aborda à Rotterdam, où nos voyageurs s'embarquèrent sur un autre paquebot qui les transporta à Cologne, et là ils prirent terre dans un état de parfaite santé. Joss Sedley ne fut pas médiocrement charmé de se voir annoncer dans les journaux de Cologne sous le titre pompeux de « Sa Seigneurie Lord de Sedley ». Il avait eu du reste la précaution d'emporter son habit de cour avec lui et fait tout au monde auprès de Dobbin pour que celui-ci ne négligeât point de prendre les insignes de son grade. Son intention bien formelle était de se présenter dans les cours étrangères et d'aller offrir ses devoirs aux souverains des pays qu'il devait honorer de sa visite. Dans tous les pays où s'arrêtait la petite caravane, M. Joss s'empressait de déposer sa carte et celle du major chez le consul anglais. Et on eut toutes les peines du monde à l'empêcher de mettre son chapeau à cornes et à ganse d'or pour aller dîner chez le représentant de la nation britannique dans la ville libre de Judenstadt, par qui nos voyageurs avaient été invités à dîner. Joss donnait un journal exact de son voyage et y consignait avec une scrupuleuse exactitude les défauts ou les qualités des hôtels dans lesquels il descendait et le menu des dîners qu'il y avait pris. Quant à Amy, elle goûtait un bonheur pur et sans mélange. Dobbin portait son pliant, son album, et avait toujours de l'admiration au service de ses dessins. Quelle différence pour elle qui, jusqu'alors, n'avait point su ce que c'était que les éloges et l'admiration. Assise sur le pont du navire, elle esquissait les rochers ou les châteaux qui s'étalaient sur les deux rives du fleuve, ou bien, à dos de mulet, allait visiter de vieilles forteresses en ruine, escortée de ses deux aides de camp, Georgie et Dobbin. Elle riait avec le major de la singulière figure qu'il faisait sur sa monture, avec ses deux jambes pendantes de chaque côté jusqu'à terre. Le bon major servait d'interprète à la petite troupe, car il savait de la langue allemande ce qui était nécessaire à sa profession de soldat. Il refaisait avec Georges, ravi de toutes ses excursions, les campagnes du Rhin et du Palatinat. Grâce à ses conversations, soutenues avec Meinherr Kirsch sur le siège de la voiture, M. Maître Georges fit de rapides progrès dans la connaissance de l'allemand. Il parlait cette langue avec les garçons d'auberge et les postillons d'une façon qui charmait sa mère et amusait son tuteur. Quant à M. Joss, tandis que ses compagnons se livraient à ces fatigantes excursions de l'après-midi, il allait, son dîner fini, goûter les douceurs du sommeil, où, assis sous des berceaux de verdure dans les jardins de l'hôtel, il se chauffait aux rayons du soleil. Jardins enchantés qui bordaient le noble fleuve, séjours splendides de paix et de lumière, monts orgueilleux dont la tête couronnée d'un rayon de soleil se réfléchit dans les ondes majestueuses qui baignent vos pieds, qui peut jamais vous avoir contemplé sans emporter un souvenir reconnaissant de cette splendeur et de ce calme qui recrée et repose les yeux de l'homme. Laissons un moment la plume et rêvons aux magnificences des bords du Rhin, qui sont pour l'âme comme la source d'une joie secrète. À cette époque, par une belle soirée d'été, les vaches descendent par troupeaux du haut des collines, mêlant leurs longs mugissements au bruit aigu de leurs clochettes. Dans le lointain, on aperçoit quelques vieilles cités avec ses fossés, ses poternes et ses tours féodales, avec de vastes allées de marronniers en dehors des remparts, projetant sur l'herbe une ombre bleuâtre. Le ciel répand à la surface du fleuve ses teintes de poudre et d'or. La lune s'élève à l'horizon, pâle et décolorée, à l'opposé des feux du couchant. Enfin, le soleil a disparu derrière ces hautes montagnes hérissées de châteaux forts. La nuit a soudainement étendu ses voiles sur le ciel, et le fleuve s'assombrit de plus en plus. Quelques faibles lumières errantes sur les remparts s'agitent de loin en loin à la surface des eaux paisibles et majestueuses, ou bien les clartés isolées de quelques pauvres chaumières scintillent comme un feu follet à l'autre versant du fleuve. Insensible à toutes ces merveilles, Joss se livre au sommeil. Enveloppé dans son foulard, il se met à son aise, ou bien encore il parcourt les nouvelles anglaises contenues dans les colonnes du Galignani, feuilles bénies de tous les Anglais qui voyagent loin du sol natal. Du reste, que Joss dormît ou non, ses amis ne s'apercevaient que fort peu de son absence. Ce fut là qu'Amy apprit à goûter des plaisirs jusqu'alors inconnus pour elle. Ce fut là que, pour la première fois, elle fut initiée aux merveilles de Mozart et de Cimarosa. Nous avons déjà entretenu nos lecteurs des prédilections du major pour la musique et de l'ardeur avec laquelle il se livrait à l'étude de la flûte. Mais son plus grand bonheur était de voir le ravissement que ses opéras causaient à Amy. Un nouveau monde se révélait à elle au milieu de ses suaves et mélodieuses harmonies. Les chefs-d'œuvre de Mozart pouvaient-ils laisser insensible une âme aussi exquise et aussi délicate? La tendresse de certains passages de Don Juan avait caressé son âme de si délicieuses émotions que parfois elle se demandait le soir, dans le recueillement de la prière, si ce n'était point péché que d'éprouver une si vive jouissance à entendre ces pures harmonies. Le major, aux lumières théologiques duquel elle avait recours en ces circonstances, dont l'âme était d'ailleurs si pieuse et si noble, lui disait que, pour sa part, ce bonheur intérieur, qui lui venait des chefs-d'œuvre de l'art ou de la nature, ne pouvait que lui inspirer de la reconnaissance envers Dieu, et que pour lui, le plaisir d'écouter de la belle musique ressemblait à celui qu'il éprouvait en contemplant les étoiles du ciel ou la végétation de la terre. Nous prenons plaisir à nous arrêter à cette période de la vie d'Amélia parce que ce fut pour elle une époque de joie pure et sans mélange. On a pu remarquer jusqu'ici que les nobles inspirations de son intelligence ont toujours été étouffées par le délaissement et le dédain, comme c'est, hélas, le sort d'une femme ici-bas. Car chacune des personnes de ce sexe aimable, trouvant une rivale dans toutes ses semblables, est sûre d'avance de voir traiter, avec un charitable empressement, sa réserve de gaucherie, sa candeur de sottise. Et ce silence, qui n'est qu'une protestation timide contre la malveillance de ceux qui tiennent le monde à leur discrétion, est loin de trouver grâce devant le tribunal de l'Inquisition féminine. Telle avait été à peu près jusqu'alors la société de cette pauvre et chère Amy qui enfin se trouvait placée en compagnie d'un galant homme. Or, c'est là une espèce plus rare qu'on ne pense dans la société où l'on trouve beaucoup de petits maîtres qui ont des habits de la dernière coupe, mais peu de gens qui savent unir la bonté à la générosité des sentiments et pousse l'ignorance des petites intrigues jusqu'à la simplicité. Pour moi, si j'avais à faire une liste des gens de cette espèce, elle serait bientôt terminée. Toutefois, je mettrai d'abord en tête notre cher ami le major. Ses jambes sont démesurées, sa figure est jaune, ses lèvres minces, ce qui, au premier abord, forme un ensemble assez ridicule, c'est vrai. Mais il a l'esprit juste, le cœur bon, une vie irréprochable, une âme tout à la fois candide et dévouée. Sa tournure avait plus d'une fois prêté matière aux railleries des deux Georges, et il en était peut-être bien résulté quelques doutes et quelques incertitudes dans l'esprit de la petite Amy sur la valeur et les mérites du major. Mais qui de nous n'a pas aussi ses heures de méprise? Qui de nous n'a pas maintes fois changé d'opinion sur son héros? Amy, dans ces jours de bonheur qu'elle goûtait maintenant, sentit ses idées se modifier singulièrement sur le compte du major. Ce temps fut peut-être le plus heureux de la vie d'Amy. Toutefois, qui de nous peut se faire une juste idée de son bonheur? Qui de nous peut s'arrêter et dire « Je suis maintenant au comble de mes vœux, je touche au fait des félicités humaines ». Quoi qu'il en soit, chacun de nos deux voyageurs goûtait, dans cette tournée d'été, une joie aussi complète qu'aucun des couples qui, cette année, était parti de l'Angleterre. Georgie ne les quittait point, mais c'était le major qui portait le châle d'Amy, qui prenait soin de ses affaires dans leurs excursions vagabondes, pendant que notre jeune espiègle courait toujours en avant et grimpait sur les arbres ou les ruines des vieux châteaux. Nos deux paisibles touristes s'asseyaient sur l'herbe et le major fumait son cigare avec un sang-froid imperturbable, tandis qu'Amy dessinait un paysage ou de vieilles ruines. Ce fut pendant ce voyage que l'auteur de la présente histoire eut l'avantage de faire la connaissance de ses héros. On était alors dans la charmante petite capitale du grand-duché de Poupernickel, la même ville où Sir Pitt Crawley avait rempli avec tant de distinction l'office d'attaché. Le major et sa société étaient descendus avec les domestiques à l'hôtel des Princes, le meilleur de toute la ville, et le soir, les voyageurs dînèrent à la table d'hôte. Tout le monde remarquait l'air majestueux et grave que Joss mettait à sabler, ou plutôt à déguster le Johannisberg qu'il avait demandé. On put aussi constater que l'enfant était doué d'un excellent appétit et qu'il engloutissait bœuf grillé, côtelettes, salades, puddings, volailles rôties et plats sucrés avec une résolution qui faisait honneur aux mâchoires de son pays. Après avoir ainsi tenu bon devant une quinzaine de plats, il fermait la marche par l'absorption de quelques friandises, en ayant soin, par prévoyance, de remplir en même temps ses poches. Plusieurs des convives, charmés de ses manières ouvertes et aimables, l'aidèrent eux-mêmes à dévaliser les assiettes de macarons qu'il grignota en se rendant au théâtre, où tous les bons et flegmatiques Allemands allaient ponctuellement passer leur soirée. Sa mère, toujours en grand deuil, riait et rougissait à la fois des espiègleries de son fils pendant le dîner, sans en paraître le moins du monde fâché. Le colonel, car notre ami Dobbin avait obtenu ce grade à peu près vers cette époque, le colonel raillait l'enfant avec le plus grand sérieux du monde et lui présentait tous les plats auxquels il n'avait point touché, en le suppliant de ne point faire jeûner ainsi son estomac, et lui offrant, même si besoin était, de faire venir un supplément. Il y avait ce soir-là représentation, par ordre, au théâtre grand-ducal de la cour de Poupernickel. Madame Schröder de Vrindt, alors dans l'éclat de la beauté et du talent, remplissait le rôle principal dans le merveilleux opéra de Fidelio. De nos stalles d'orchestre, il nous était facile d'apercevoir nos quatre compagnons de la table d'hôte, remplissant la loge que le propriétaire de l'hôtel des Princes tenait à la disposition de ses plus riches visiteurs. Je ne pus m'empêcher de remarquer l'effet que produisirent sur Mrs. Osborne ces notes harmonieuses et pures, auxquelles venait se joindre tout le pathétique que déployait l'actrice dans son jeu. La figure de M. Osborne brillait d'une telle expression d'admiration et de bonheur que le petit Fripps, attaché d'ambassade, à la voix grasseyante et aux prétentions d'homme blasé, ne put s'empêcher de s'écrier « Va Dieu ! Ça fait plaisir de voir une femme dans de pareils transports d'exaltation !» Le lendemain, on donnait une pièce de Beethoven, « Die Schlacht bei Vittoria », la bataille de Vittoria. Au lever du rideau, Marlborough s'avance au milieu d'un morceau d'ensemble de tous les instruments. C'est une confusion du bruit des tambours, des notes aiguës des trompettes, du roulement de l'artillerie et des cris des mourants qui se termine par le chant national et triomphateur du « God save the King ». Il se trouvait environ une vingtaine d'Anglais dans la salle qui, dès les premières notes de cette musique, si connue, si chère, éclatèrent en applaudissements redoublés. Les jeunes gens de l'orchestre, Sir John et Lady Bulminster, qui étaient venus s'établir à Poupernickel pour y suivre l'éducation de leurs 9 enfants, le gros monsieur à moustache, le major en culotte blanche, l'enfant pour lequel il se montrait si bienveillant, la dame en noir, et jusqu'à Kirsch lui-même, se levèrent électrisés par l'air national, comme pour protester de leur entier dévouement à leur chère patrie. Quant à Tapeworm, le secrétaire de l'ambassade, il monta sur son banc et se mit à saluer de tous côtés, comme si en lui se fût trouvée la personnification de tout le Royaume-Uni. Tapeworm était le neveu et l'héritier du vieux maréchal Tiptoff, dont le nom a déjà été prononcé dans cette histoire, quelque temps avant la bataille de Waterloo. Il était alors colonel du Yem, où le major Dobbin servait en qualité de capitaine, et il mourut la même année des suites de ses blessures et d'une indigestion d'œufs de pluvier. C'est ainsi que le colonel Sir Michael O'Dowd, chevalier du Bain, avait été, par une faveur toute spéciale de Sa Majesté, mis à la tête du dit régiment qui, sous sa conduite, s'était couvert d'éclat en maintes circonstances. Tapeworm s'était rencontré avec le colonel Dobbin chez son oncle le maréchal, et il le reconnut ce soir-là au théâtre. Avec une affabilité des plus touchantes, le ministre quitta sa loge et alla publiquement donner une poignée de main à l'ancien ami qu'il venait de retrouver. « Bon, voilà cet enragé Tapeworm qui va promener ses gants jaunes auprès de cette jolie femme des premières, » murmura Fripps entre les dents, tout en suivant les mouvements de son supérieur. « Il suffit qu'il y ait une jolie femme quelque part pour qu'on soit sûr de l'y voir fourrer son nez. Mais, en vérité, à quoi serviraient les diplomates si ce n'était à cela ? N'est-ce pas à Mrs. Dobbin que j'ai l'honneur de parler ?» demanda le secrétaire avec sa plus gracieuse grimace. « Ah, la bonne charge !» s'écria Georgie en étouffant de rire. La rougeur monta au front d'Emmy et à celui du major. Que notre lecteur n'oublie pas que nous nous trouvions au stall, d'où il nous était facile de suivre leurs moindres mouvements. « Voici Mrs. George Osborne, » répondit le major, « et voici son frère, M. Sedley, un des fonctionnaires les plus distingués qui soit au service de la compagnie du Bengale. Permettez-moi de le présenter à votre seigneurie. » Milord fit un sourire si agréable que Joss, transporté d'aise, se sentit presque faiblir sous lui. « Vous proposez-vous de passer quelque temps dans la principauté de Poupernickel ?» demanda-t-il. « L'existence y est un peu monotone. Il nous faudrait de la société. Nous ferons du reste tout au monde pour vous rendre ce petit réduit agréable. Ah, monsieur, ah, madame, j'aurai l'honneur d'aller demain à votre hôtel vous présenter mes civilités. » En même temps, il se retira en lançant un sourire et un regard semblable à la flèche que le parte décoche dans sa fuite, et il croyait qu'il n'en avait pas besoin de plus pour mettre Mrs. Osborne à sa discrétion. La pièce terminée, les jeunes gens se mirent à parcourir les couloirs pour jeter un dernier coup d'œil aux dames qui se disposaient à se retirer. La duchesse Douairière partit dans une vieille calèche toute disloquée sur ses essieux. Elle était escortée de 2 vieilles demoiselles d'honneur toutes ridées. Un vieux gentilhomme, au bout du nez duquel se formaient des stalactites de tabac, l'attendait dans le vestibule avec un maintien des plus respectueux. Il avait une culotte brune, un gilet vert et la poitrine chamarrée de décorations, parmi lesquelles l'étoile et le grand cordon jaune de l'ordre de Saint-Michel de Poupernickel attiraient surtout les regards. Les tambours battirent au champ, la garde porta les armes et la voiture s'éloigna. Vint ensuite le duc et la famille du duc avec les grands officiers d'État et les hauts fonctionnaires de sa maison. Il salua tout le monde d'un air fort majestueux. Tandis que la garde lui portait les armes, ses laquais en livrée écarlate et armés de torches allumées prirent les devants, et ses voitures regagnèrent le vieux château ducal, dont les tourelles et les créneaux dominaient la ville. À Poupernickel, tout le monde se connaît. Aussi, dès qu'une figure étrangère se montre dans le pays, le ministre des Relations extérieures ou un autre fonctionnaire de moindre importance se transporte à l'hôtel des princes pour y prendre les noms des nouveaux venus. De notre poste d'observation, nous continuâmes à assister au défilé du théâtre. Tepouam venait de sortir enveloppé de son manteau, qu'un chasseur gigantesque était chargé de lui tenir tout près partout où il allait, ce qui donnait au secrétaire une véritable tournure de Don Juan. La femme du premier ministre était montée pendant ce temps-là dans sa chaise à porteur, et sa fille, la charmante Ida, venait de mettre son châle et ses claques. Nous vîmes ensuite le major, qui prenait le plus grand soin à bien envelopper Mrs. Osborne dans son châle. M. Sedley avait un air fort imposant sous son tricorne galonné, et avec sa main à demi cachée dans un immense gilet blanc qui couvrait sa poitrine. La voiture que M. Kirsch avait eu la présence d'aller chercher reconduisit la petite société à l'hôtel. Joss préféra s'en aller à pied pour fumer en chemin son cigare. Les trois autres personnes partirent donc sans M. Sedley. Kirsch suivit son maître en portant l'étui à cigare. Comme notre intention était aussi de rentrer à pied, nous prîmes le parti d'accoster maître Joss. Nous nous mîmes à causer des agréments très réels que la localité offrait aux Anglais. On y chassait, on s'y promenait, on y dansait, car cette cour hospitalière avait pris le soin de réunir dans sa petite enceinte tous les plaisirs qui pouvaient attirer et retenir les étrangers. La société était des plus choisies, le théâtre excellent, et on y vivait à bon marché. Notre ministre plénipotentiaire m'a fait l'effet d'un homme fort accueillant et très affable, nous dit notre nouvel ami. Avec un résident comme lui et un bon médecin, ce séjour doit être des plus agréables. Bien le bonsoir, messieurs, je vous souhaite. » Et là-dessus, maître Joss regagna sa chambre en faisant craquer ses bottes sur les marches de l'escalier. Kirsch l'escortait tenant à la main son flambeau. Nous nous livrâmes au sommeil avec l'espoir que cette jolie femme consentirait à passer quelque temps dans la principauté de Poupernicle. Chapitre 31, où nous nous retrouvons avec une vieille connaissance. L'excessive politesse de Lord Tepouam produisit sur l'esprit de M. Joss la plus favorable impression, et le lendemain matin, à déjeuner, il déclara qu'à son avis, Poupernicle était bien le plus charmant pays du monde. Il était toujours très facile de saisir les finesses de Joss, et Dobbin riait en lui-même en entendant le digne fonctionnaire parler sur le ton d'un homme qui s'y connaît, du château de Tepouam et du lignage de cette noble famille. Dobbin eut par là la preuve que son digne compagnon s'était levé de grand matin afin de consulter le dictionnaire de la pairie qu'il ne quittait jamais, pas même en voyage. Joss, à ce qu'il disait, affirmait avoir déjà vu le très honorable comte de Bagwig, le père de sa seigneurie, à la cour, au petit lever. Il en appelait au souvenir de Dob. Le diplomate, fidèle à sa promesse, étant venu visiter nos voyageurs et ayant fait à Joss de grands saluts et de profondes révérences, ce dernier se sentit dès lors tout porté pour lui. Dès l'arrivée de son Excellence, Joss jeta un coup d'œil à Kirsch qui, prévenu à l'avance, alla disposer une petite collation de viande froide, de gelées et autres friandises, à laquelle le noble visiteur fut obligé de prendre part pour mettre un terme aux obsessions de Joss. Tepouam ne laissait échapper aucune occasion de témoigner son admiration pour les beaux yeux de Mrs. Osborne, dont la fraîcheur et la beauté semblaient gagner chaque jour un nouvel éclat. Aussi paraissait-il fort satisfait de toutes les invitations qui lui procuraient le moyen de venir passer quelques heures chez M. Sedley. Il lui adressa deux ou trois questions un peu gaillardes sur l'Inde et sur les jolies filles que l'on y rencontre. Il demanda à Amelia si ce bel enfant qu'elle avait avec elle était le sien, et il étonna grandement la petite femme en la complimentant de la sensation qu'elle avait produite au théâtre. Enfin, il acheva la conquête de Dobbin en lui parlant des exploits en Belgique du contingent de Poupernicle, commandé par le prince héréditaire, maintenant duc de Poupernicle. La galanterie était chez les Tepouam une vertu de famille. Aussi leur digne représentant se persuadait-il que toutes les femmes sur lesquelles il daignait laisser tomber un regard devenaient aussitôt amoureuses de lui. Il quitta Amy bien convaincu qu'elle était désormais fascinée par la force de son esprit et de ses séductions, et il se hâta de rentrer chez lui pour lui écrire un poulet des mieux tournés. Amy, à vrai dire, ne se sentait nullement gagnée par l'admiration. Les grimaces, le babillage, le mouchoir parfumé, les bottes vernies et à haute tige de tapeworm l'avaient d'abord étourdie, puis enfin lui avaient donné la migraine. Elle n'avait rien entendu à la moitié de ses beaux compliments. Avec le peu d'expérience qu'elle avait du monde, elle ignorait encore complètement ce que c'était qu'un homme à bonne fortune, et Miller lui paraissait plus curieux encore qu'amusant. S'il n'excitait pas son admiration, il éveillait du moins sa surprise. Quant à Joss, il était plongé dans l'enchantement. « Voilà un grand seigneur fort poli, disait-il. Voyez un peu jusqu'à quel point il pousse la prévenance. Sa seigneurie n'a-t-elle pas été jusqu'à m'offrir de m'envoyer son médecin ? Kirsch, vous allez de ce pas porter nos cartes chez le comte de Schlüsselbach. J'aurai, ainsi que le major, un véritable plaisir à aller lui faire ma cour le plus tôt possible. Kirsch, sortez mon uniforme, nos deux uniformes, nous les mettrons pour cette visite. C'est une marque de politesse à laquelle ne doit pas manquer un Anglais en voyage, vis-à-vis du souverain dont il traverse les États et des représentants de sa nation. » Le docteur de Lord Tapeworm, M. von Glauber, médecin ordinaire de son Altesse le Grand-Duc, ne manqua pas de venir faire sa visite. Il n'eut pas de peine à persuader à Joss que les eaux minérales de Poupernickel et qu'un régime particulier auquel il offrait de le mettre ne pouvaient manquer de rendre aux fonctionnaires du Bengale la vigueur et les roses de la jeunesse. « Il est arrivé ici, lui dit-il, l'an dernier, le général Bulkeley, un général anglais deux fois croc comme fou. Eh bien, monsieur, au bout de 3 mois, je l'ai renvoyé tout à fait maigre. Et au bout de 2 mois, il a fait pu danser avec la baronne de Glauber. » Il n'y avait plus à hésiter. Les sources, le docteur, la cour, le chargé d'affaires parlaient à son esprit avec une éloquence irrésistible. Il résolut, en conséquence, de passer l'automne dans cette délicieuse résidence. Fidèle à sa parole, le chargé d'affaires présenta Joss et le major à Victor Aurelius XVII. Ce fut le comte de Schlüsselbach, maréchal du palais, qui les introduisit à l'audience du souverain. Bientôt, ils reçurent une invitation à dîner à la cour, et lorsqu'ils eurent annoncé leur intention de s'arrêter dans cette ville, les dames les plus huppées de l'endroit allèrent rendre visite à Mrs. Osborne, et comme chacune de ces dames, quelque pauvre qu'elle pût être, était pour le moins baronne, l'excellent Joss ne se sentait pas d'aise. Il écrivit à un de ses amis du club qu'on savait en Allemagne traiter avec les plus justes égards l'importante compagnie des Indes, qu'il allait apprendre à son ami le comte de Schlüsselbach la manière indienne de chasser le sanglier, et qu'enfin ses augustes amis le duc et la duchesse étaient tout ce qu'il y avait de plus aimable et de plus poli au monde. Amy fut également présentée à cette auguste famille, et comme le deuil est contraire à l'étiquette du cours, elle se rendit au palais avec une robe en crêpe rose, une garniture de diamants au corsage, et donnant le bras à son frère. La toilette lui allait si bien que le duc et sa cour ne se lassèrent point de l'admirer. Nous ne parlons point de Dobbin, qui n'avait presque jamais vu Amelia en toilette de bal. Aussi jurait-il alors qu'on ne lui aurait pas donné plus de 25 ans. Elle dansa une polonaise avec le major Dobbin, tandis que M. Joss avait l'honneur d'être le cavalier de la comtesse de Schlüsselbach, vieille dame qui portait une touffe de plumes sur le chignon, mais qui comptait 16 quartiers de noblesse et des alliances avec presque toutes les maisons royales de l'Allemagne. Poupernickel est située au fond d'une heureuse vallée, baignée par les eaux fertilisantes de la Rump, qui s'y déroule en 1000 replis tortueux, avant d'aller se jeter dans le Rhin, à un endroit que je ne puis indiquer, faute d'avoir la carte sous les yeux. Dans certains points, la rivière est assez forte pour supporter un bac, et dans d'autres, pour faire tourner un moulin. Dans Poupernickel même, le grand et fameux Victor Aurelius XIV a construit un pont magnifique, sur lequel s'élève sa statue, entourée de naïades, qui porte les emblèmes de la victoire, des cornes d'abondance et le rameau d'olivier. Il a le pied sur la tête d'un Turc prosterné devant lui. Le prince fait au passant un gracieux sourire et désigne de son glaive la place Aurelius, où il avait commencé à édifier un nouveau palais qui eût été la merveille de son siècle si ce prince magnanime avait eu l'argent nécessaire pour le terminer. Mais il ne put être achevé faute d'argent comptant. Le parc et le jardin, tombés désormais dans un état de dépérissement déplorable, pourraient contenir 10 cours et 10 souverains comme ceux que possède Poupernicle. Les jardins renferment des terrasses et des bassins allégoriques pour le moins dignes de ceux de Versailles, et qui exciteraient l'admiration des étrangers s'ils n'étaient en réparation continuelle pour les conduits. Le gouvernement est despotique pour le plus grand bien des sujets, mais tempéré par une chambre élective ou non à volonté. Pendant tout le temps de mon séjour à Poupernicle, je n'ai point entendu dire qu'elle se fût réunie. L'armée se composait d'un fort bel état-major, mais d'un très petit nombre de soldats. Pour la cavalerie, on compte environ 3 ou 4 cavaliers qui font le service des dépêches. Chacun d'eux a un uniforme différent pour représenter les différents corps. La noblesse se visite régulièrement. Chaque marquise, comtesse ou baronne a son jour de réception, ce qui fait que la semaine se trouve toute remplie pour le mortel fortuné qui jouit des grandes et petites entrées dans la haute société de Poupernicle. Malgré son peu d'étendue, la capitale de ce petit royaume a été cependant le théâtre des querelles les plus vives. La politique fait rage à Poupernicle et les partis y sont très ardents. 2 factions y règnent, l'une tenant pour Mrs. Strumpf et l'autre pour Mrs. Lederburg. L'une est soutenue par le ministre anglais, l'autre par le chargé d'affaires français, M. de Macabo. Du moment où notre ministre plénipotentiaire se déclarait pour Mrs. Strumpf, de beaucoup la meilleure chanteuse, car elle compte 3 notes de plus dans la voix, il n'en fallait pas davantage pour que le ministre français se jetât dans l'autre partie et se montra toujours en opposition avec notre envoyé. Tout le monde dans la ville était obligé de se ranger de l'un ou de l'autre côté. Nous avions pour nous le ministre de la maison du grand-duc, son premier écuyer, son secrétaire particulier et le précepteur du jeune prince. Le parti français se recrutait du ministre des Affaires étrangères, de la femme du général en chef qui avait servi sous Napoléon, du maréchal du palais et de sa femme qui, enchanté de suivre les modes de Paris, avait toute espèce de renseignements à ce sujet par l'entremise du courrier d'ambassade de M. de Macabo. Le secrétaire de chancellerie était un petit de Grignac, malin comme Satan, et qui avait dessiné la caricature de Tapeworm sur tous les albums de la localité. Leur quartier général et leur table d'hôte étaient à l'hôtel de l'Éléphant, qui, avec celui des princes, composait tout ce que Poupernicle avait d'établissement en ce genre. Tout en observant en public les plus strictes convenances, ces messieurs n'avaient garde, cependant, de s'épargner les épigrammes les plus mordantes. Tels on voit des lutteurs se couvrir de meurtrissures et de plaies sans que jamais l'expression de leur figure trahisse la souffrance physique. Tapeworm et Macabo ne manquaient jamais d'assaisonner les dépêches qu'ils adressaient à leur gouvernement d'attaques ou de récriminations contre un odieux rival. Notre résident, par exemple, écrivait à son gouvernement les lignes suivantes. L'intérêt de la Grande-Bretagne, dans ce pays comme dans le reste de l'Allemagne, restera compromis aussi longtemps que l'envoyé français qui se trouve ici sera maintenu à son poste. C'est un homme infâme, abominable, qui ne recule devant aucune scélératesse et commettrait tous les crimes pour arriver à ses fins. Par de perfides insinuations, il cherche à pervertir l'esprit de la cour à l'égard des ministres de la Grande-Bretagne. Il s'efforce de présenter la conduite de notre gouvernement sous le jour le plus atroce et le plus odieux. Et il est malheureusement approuvé par un ministre dont l'ignorance est aussi notoire que son influence est fatale. Dans une autre correspondance, on écrivait « Monsieur de Tapeworm n'a rien rabattu de son arrogance britannique et de son système de dénigrement ridicule à l'égard de la plus grande nation de la Terre. » On l'a surpris l'autre jour à parler fort légèrement de la cour de France, et hier, on l'a entendu accuser son Altesse royale, le duc d'Orléans, qui sait si bien ce qu'il doit à sa famille et surtout à lui-même, de conspirer contre le trône de notre auguste souverain. Il prodigue l'or à pleine main, si par hasard ses menaces n'ont pas tout le succès qu'il en attend. À force de bassesse, il est parvenu à se faire un assez grand nombre de créatures à la cour. En résumé, Poupernicle ne peut espérer de repos, l'Allemagne de tranquillité. la France ne peut prétendre à un légitime respect et l'Europe à la satisfaction qui lui est due tant qu'on n'aura point commencé par écraser cette bête venimeuse. La saison d'hiver était à peine commencée, Kémy avait déjà choisi un jour de réception et se distinguait par la manière aussi gracieuse que modeste dont elle faisait les honneurs de chez elle. Elle prit un maître de français qui lui fit compliment de la pureté de son accent et de la facilité qu'elle montrait à apprendre, ce qui s'expliquait du reste par l'étude particulière qu'elle avait faite de la grammaire dans le temps où elle s'essayait à donner des leçons à Georges. Madame Schtroumpf lui donnait des leçons de chant, et Amy s'en acquittait d'une façon si agréable et d'une voix si douce que le major, qui avait pris un appartement en face d'elle, laissait ses fenêtres ouvertes pour entendre la leçon. Les dames allemandes, si sentimentales et si simples dans leur goût, se prirent d'une belle passion pour elle et se mirent à l'appeler leur chère amie. Ces détails paraîtront peut-être minutieux et vulgaires, mais nous nous faisons un devoir de les citer parce qu'ils se rattachent à des temps heureux. Quant au major, il était devenu l'instituteur de Georges. Il lisait avec lui les commentaires de César et lui faisait repasser les mathématiques en supplément des leçons que lui donnait un maître particulier. Tous les soirs, on allait se promener à cheval à côté de la voiture d'Amy, trop timide pour se risquer de même, et toujours prête à pousser un cri au moindre mouvement de la monture de Georges. Elle causait dans un coin de la voiture avec quelques blondes allemandes, tandis que Joss faisait un somme dans l'encoignure voisine. Joss fut atteint de sentiments fort tendres pour la comtesse Fanny de Butterbrodt, douce et tendre créature dont les parchemins établissaient parfaitement les droits au titre de chanoinesse et de comtesse, mais qui, pour tout revenu, ne possédait qu'une somme de 250 livres par an. Fanny disait, à qui voulait l'entendre, qu'elle demandait au ciel, comme le plus grand bonheur, de devenir la sœur d'Amélia. Joss aurait pu, de cette façon, mettre sur les panneaux de sa voiture et sur son argenterie la couronne et l'écusson de la comtesse. Au milieu de tous ces projets, survinrent de grandes réjouissances à l'occasion du mariage du prince héréditaire de Pumpernickel avec la princesse Amélie de Hombourg-Schlippenschloppen. La splendeur de ces fêtes rappela les prodigalités du règne de Victor XIV. Les princes, les princesses et les grands personnages du voisinage furent invités à y prendre part. Les lits montèrent au prix fabuleux, à Pumpernickel, de 3 francs par nuit, et l'armée eut peine à suffire à tous les postes d'honneur qu'il fallut établir aux portes des excellences et des altesses qui arrivaient de tous côtés. La princesse avait été épousée par procuration à la résidence de son père par le comte de Schlüsselbach. Quantité de tabatières furent données à cette occasion, ainsi que je l'ai appris d'un joaillier de la cour, qui, après s'être chargé de les vendre, se chargea aussi de les racheter. On envoya la plaque de l'ordre de Saint-Michel de Pumpernickel à tous les grands dignitaires de la cour de la demoiselle, tandis que les cordons et les croix de Sainte-Catherine de Schlippenschloppen brillaient sur toutes les poitrines les plus considérables de Pumpernickel. L'envoyé français reçut les 2 décorations. « Le voilà couvert de rubans comme un cheval de corbillard, » disait Tapeworm, auquel, d'après les principes de son gouvernement, il était interdit de recevoir aucune décoration. À lui les cordons, mais à nous la victoire. Le fait est que le parti britannique triomphait. Le parti français avait proposé une princesse de la maison de Potsdamer-Donnerwetter, et aussitôt le parti anglais s'était mis en campagne pour trouver une autre alliance. Tout le monde fut convié à ces fêtes. Des guirlandes de fleurs et des arcs de triomphe furent disposés sur la route par laquelle devait arriver la jeune mariée. De la grande fontaine de la place Saint-Michel jaillissait un vin passablement aigre, tandis que celle de la place d'Armes versait des flots de bière. Les grandes eaux jouèrent aussi pour cette solennité. Des mâts de cocagne furent dressés dans le parc et dans les jardins, et à leur sommet des montres, des couverts d'argent et des saucisses entourées de rubans roses provoquaient la convoitise des amateurs. Georgie, aux grands applaudissements des spectateurs, eut l'idée de grimper à l'un de ces mâts, puis ensuite il se laissa glisser avec la rapidité de l'éclair. Mais cette prouesse était uniquement pour la gloire. et il donna son saucisson à un paysan qui, ayant tenté l'ascension avant lui, se désolait au pied du mât de son peu de succès. La chancellerie française comptait 6 lampions de plus que la légation britannique, mais la légation britannique avait un transparent sur lequel on voyait, à l'approche du jeune couple, la discorde prendre la fuite. La discorde ressemblait trait pour trait à l'ambassadeur français. La France eut donc le dessous, et il n'y a aucun doute pour nous que l'avancement de Tapeworm et la croix de chevalier du bain n'aient été la récompense de cette manifestation éclatante. Les étrangers arrivèrent en foule pour les fêtes. Les Anglais ne manquèrent pas à l'appel. Il y eut des bals à la cour, bals dans tous les lieux publics. On installa même des tapis verts pour le 30 et 40 et la roulette, mais seulement pour les 8 jours que durèrent les fêtes. Georgie, qui avait toujours les poches pleines d'écus et dont les parents étaient invités aux fêtes de la cour, se rendit au bal de la cité en compagnie de l'interprète de son oncle, M. Kirsch. Jusqu'alors, il n'avait fait que passer dans la salle de jeu de Baden, où, conduit par le bon Dobbin, il n'avait été autorisé qu'au simple rôle de spectateur. Georgie était donc enchanté de pouvoir se rendre, sans contrôle et sans entrave, dans les salons où croupiers et spectateurs agitaient sans rien voir le râteau fatal. Des femmes étaient aussi assises à la table de jeu, mais elles portaient des masques. C'était une licence accordée pendant ces temps de fête et de plaisir. Une femme aux cheveux d'un blond clair, à la toilette fanée et qui présentait par sa couleur un singulier contraste avec la fraîcheur qu'elle pouvait avoir eue autrefois, laissait apercevoir à travers son masque noir l'éclat étrange de ses yeux qui suivaient sur le tapis les vicissitudes du jeu, puis se reportaient sur une carte où elle marquait chaque coup avec une rigoureuse exactitude, à mesure que le croupier appelait un nombre ou une couleur. Elle n'aventurait son argent que lorsque la sortie répétée du rouge ou du noir lui faisait espérer le gain. Sa vue produisait sur ceux qui l'entouraient une singulière sensation. Mais, en dépit de tant de soins et d'attention, le sort s'était décidé contre elle, et son dernier florin venait de disparaître sous le râteau du croupier. Au moment où celui-ci proclamait, de sa voix inexorable, la couleur et le nombre gagnant, elle poussa un soupir, haussa de blanches épaules qui déjà s'aventuraient peut-être hors de sa robe avec trop de complaisance, puis elle piqua son épingle sur sa carte et la perça à plusieurs reprises avec une sorte d'impatience fiévreuse. À ce moment, elle aperçut, en levant les yeux, l'honnête figure de Georges qui la contemplait d'un air tout ébahi. Que diable aussi ce petit drôle avait-il à faire dans ce repère ? « Monsieur n'est pas joueur ?» demanda-t-elle en français à l'enfant, en lui jetant à travers les ouvertures de son masque le coup d'œil fascinateur de la bête féroce, prête à s'abattre sur sa proie. « Non, madame, » répondit l'enfant dans la même langue. Mais son accent ayant trahi son origine britannique, elle reprit avec une prononciation légèrement étrangère « N'auriez-vous donc jamais joué ? En ce cas, rendez-moi un petit service. » « Et lequel ?» fit Georgie, en rougissant de nouveau. M. Kirsch était alors tout absorbé dans une partie de rouge et noir et ne faisait nulle attention à ce que devenait son jeune maître. « Jouez pour moi, je vous prie, et placez cette pièce sur un numéro, le premier qui vous passera par la tête. » En même temps, elle tirait une bourse de sa poche, y puisait une pièce d'or, la seule qui lui resta, et la mettait dans la main de l'enfant. Celui-ci fit en riant ce qu'elle lui demandait. L'enfant gagna. « Ce sont là des jeux de la fortune. Aux innocents les mains pleines, » dit le proverbe. « Merci, » lui fit-elle, en attirant l'argent à elle. « Merci. »« Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Osborne, » répondit Georges. En même temps, il plongeait les mains dans ses poches et se disposait à tenter la fortune à ses risques et périls, lorsque le major en uniforme et Joss en marquis firent leur entrée dans la salle. Ils arrivaient du bal de la cour. D'autres personnes, trouvant que l'on s'ennuyait au château, avaient abandonné plutôt qu'eux encore l'étiquette princière pour les plaisirs bourgeois. Quant au major et à Joss, il est probable qu'en rentrant chez eux, et en ne trouvant point le petit bonhomme, ils s'étaient aussitôt émus de son absence et avaient été à sa recherche. Le major alla droit à Georgie, le prit par le bras, et le tira brusquement à lui au moment où, sous l'empire de la tentation, l'enfant étendait déjà la main sur le tapis vert. Ensuite, en regardant autour de lui, il aperçut Kirsch occupé à une autre table de la manière que nous avons dite. Il se dirigea sur lui et lui demanda comment il avait osé conduire M. Georges dans un pareil endroit. « Laissez-moi tranquille, » dit M. Kirsch, sous la double excitation du jeu et du vin. « Il faut s'amuser, parbleu, et d'ailleurs je ne suis pas au service de monsieur. » En voyant dans quel état Maître Kirsch se trouvait, le major jugea qu'il était inutile de discuter avec lui, et il se contenta d'emmener Georges, après avoir demandé à Josse s'il voulait rentrer. Josse s'était mis à côté de la dame masquée, à qui la veine semblait être revenue et qui commençait à gagner. Josse paraissait prendre un très vif intérêt à son jeu. « Allons, Josse, dit le major, je vous engage à rentrer avec Georges et moi. C'est ce que vous avez de mieux à faire. »« Tout à l'heure, dit Josse, je rentrerai avec ce drôle, » continua-t-il en désignant Maître Kirsch. Les égards que l'on doit à de jeunes oreilles épargnèrent à Josse une remontrance de Dobbin, et le major partit seul avec Georges, laissant son ami dans le salon de jeu. « Avez-vous joué ? » demanda le major à Georgie, dès qu'ils furent hors de la salle. « Non, » répondit l'enfant. « Donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne jouerez de votre vie. »« Et pourquoi, s'il vous plaît ? Cela m'a l'air fort amusant. » Le major lui exposa alors, avec toute l'énergie d'une profonde conviction, les motifs qui l'engageaient à lui tenir ce langage. Si, par une réserve des plus louables, le major ne s'était imposé le devoir d'écarter avec soin tout ce qui pouvait porter atteinte à la mémoire d'un ami, il aurait pu citer à Georgie les funestes résultats du jeu pour son père. Lorsqu'il fut rentré à son hôtel, le major vit s'éteindre la lumière qui se trouvait dans la petite chambre voisine d'Amélia, et peu après, celle qui se trouvait dans la chambre d'Amélia s'évanouit également, et tout rentra dans l'obscurité la plus profonde. On voit que le major était bon observateur de ce qui se passait autour de lui. Mais revenons à Josse, qui s'était approché de la table de jeu et derrière une haie de pointeurs considérait les vicissitudes du tapis vert. Il n'était pas joueur, mais il ne dédaignait pas les émotions que de temps à autre pouvait lui procurer ce genre de distraction. Au fond des poches du gilet dont il venait d'étaler les magnificences à la cour se trouvaient quelques napoléons. Étendant le bras par-dessus les jolies épaules de la joueuse masquée qu'il avait devant lui, il jeta une pièce d'or et gagna. Elle fit aussitôt un petit mouvement pour lui ménager une place à côté d'elle, et ramenant les plis bouffants de sa robe, elle dégagea la chaise la plus voisine. « Venez, lui dit-elle, vous me porterez bonheur. » Elle prononça ces paroles avec un accent étranger fort différent de cette pureté de langage, avec laquelle elle avait à plusieurs reprises remercié le petit Georgie du coup qu'il avait tenté en sa faveur. Le gras et majestueux Joseph jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'il n'était observé de personne, puis après cet examen préalable, il s'assit auprès de la belle inconnue et lui dit à mi-voix « En vérité, par mon âme, je suis très bien comme cela. J'ai beaucoup de chance, allez, et je vais vous porter bonheur. » Puis il se confondit en une suite de compliments non moins embrouillés. « Jouez-vous gros jeu ? » demanda la dame masquée. « Je vais risquer un ou deux napoléons, » fit Josse avec un air magnifique en jetant sur le tapis sa pièce d'or. « Oui, vous pouvez jouer un napoléon comme un autre jouerait un shilling, » continua le masque avec un tel aplomb que Josse le regarda tout effaré. Le masque poursuivit avec un accent français qui émouvait le cœur. « Oh, je le sais, vous ne jouez pas pour gagner, non plus que moi. Je joue pour m'étourdir, pour oublier, mais je n'en puis venir à bout. Le temps passé, monsieur, ne peut plus s'effacer de mon cœur. Votre petit-neveu est le portrait vivant de son père, et vous, vous n'êtes point changé. Mais si, car tout le monde change ici-bas, tout le monde oublie, tous les cœurs. Mon Dieu, à qui ai-je l'honneur de parler ? Murmura Josse, ne sachant plus où il en était. Comment, vous ne devinez pas, Joseph Sedley ? Dit cette femme d'une voix mélancolique en enlevant son masque et tenant un moment son interlocuteur sous la fixité de son regard. « Vous aussi, vous m'avez oublié ? Juste ciel, Mrs. Crowley !» s'écria Joss, sans pouvoir revenir de sa surprise. « Oui, Rebecca !» dit cette femme en lui prenant la main. Et tout en le tenant ainsi sous son regard fascinateur, elle n'avait point cependant cessé de suivre les retours du jeu. « Je suis à l'hôtel de l'éléphant, » continua-t-elle. « Demandez Madame Rodden. J'ai aperçu aujourd'hui cette chère Amelia. Elle est bien jolie et paraît bien heureuse. Et vous aussi, Monsieur Joss. Hélas, mon cher Monsieur Sedley, la douleur et le chagrin ne sont plus désormais que pour moi seul. » En même temps, elle poussa son argent du rouge au noir, comme par un mouvement machinal, tout en faisant semblant d'essuyer ses yeux avec un mouchoir de poche garni d'une dentelle en lambeaux. Le rouge passa de nouveau, et elle perdit tout par ce dernier coup. « Partons, dit-elle, et donnez-moi votre bras jusqu'à mon hôtel. Ne sommes-nous pas de vieux amis, mon cher Monsieur Sedley ?» Monsieur Kirsch, qui de son côté avait perdu tout l'argent qu'il avait sur lui, suivit de loin son maître aux clartés argentées de la lune, dont la splendeur éclipsait les derniers reflets des illuminations mourantes.